Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Quand je pense à ma femme d'aujourd'hui, je pense douceur. Et c'est cette douceur, en fait, profondément ancrée en elle, qui lui permet de traverser la vie avec plus de sérénité. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Lami Al-Aql, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Lamia?
Merci à toi pour ton invitation. Merci beaucoup Yasmine. Ça va bien. Je te remercie de m'avoir invitée aujourd'hui pour t'accompagner dans cette interview.
Merci infiniment. Le plaisir est partagé et j'ai vraiment envie de découvrir qui est la mienne. Surtout que, en fait, quand je pense à toi, ce qui me vient à l'esprit, c'est cette femme, en fait, qui arrive à trouver sa place là où elle est, quel que soit l'endroit où elle se trouve, quelle que soit la situation géographique où elle est, en fait.
Oui, c'est tout le challenge, effectivement, des dernières années de ma vie, c'est de pouvoir m'adapter à chaque situation familiale, professionnelle et aussi les besoins de ma famille proche et des circonstances de la vie, parfois, qui s'imposent à nous.
Oui.
Donc,
c'est ça. En fait, justement, très souvent, quand une femme accompagne son mari à travers des déplacements professionnels, pour certaines que j'ai interviewées qui me l'ont confié, elles m'ont dit on s'est oublié, en fait. On s'est oublié pendant cette période. Est-ce que ça t'est arrivé à un moment, justement, de t'oublier avant de te réveiller?
Alors, vraiment m'oublier, je ne pense pas, parce que il y a des chances, il y a des choses qui, étant petite, j'avais envie de faire et des objectifs que j'avais dans ma vie personnelle et aussi professionnelle, enfin, dans les grandes lignes. Toute petite, mon rêve, c'était de pouvoir travailler en voyageant le monde, en découvrant différents pays à travers le monde. Je voulais avoir 3 enfants. Il y a un certain nombre de choses qui ne se sont pas passées de la même manière qu'on avait prévu, parce qu'on ne peut pas prévoir les choses, mais qui au final vont dans cette direction. Donc je ne peux pas dire qu'on s'est oublié. J'ai effectivement souvent priorisé la carrière de mon mari, par exemple, ou les besoins de mes enfants, ça oui. Mais m'oublier, je ne vois pas. Je ne vois pas ça vraiment comme ça. Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait des études. Je suis allée faire mes études à Paris 1, de gestion économie d'entreprise à la Sorbonne, avec un master en gestion et stratégie internationale. Puis à l'université Carlos III de Madrid. Et là, j'avais commencé ma carrière au début chez Publicis Conseil pour le budget L'Oréal, pour travailler dans l'adaptation des campagnes publicitaires. Et ça, c'était avant d'entamer l'aventure des expatriations et des voyages avec mon mari. Alors, c'est vrai que je me souviens, la première expatriation en Malaisie, le premier choc auquel il fallait s'adapter et rebondir, c'est qu'à l'arrivée, on apprend qu'en tant que femme d'expatriée, mon visa ne me permettait pas de travailler.
Oui.
Et à ce moment-là, c'est vrai qu'en début de carrière, ça m'a un peu secouée. J'ai commencé à m'intéresser à plusieurs associations dans divers domaines. J'ai contacté les chambres de commerce, les multinationales auxquelles je pouvais avoir accès, jusqu'au jour où un ancien camarade de la Sorbonne, justement, il était venu en Malaisie, il était venu de l'Université Columbia, il m'avait fait rencontrer le chef de la mission économique de l'ambassade de France. Donc, à l'époque, bon, il a pu me proposer un CDD, vu que je n'étais ni malaisienne ni française, ni avec la possibilité de signer un contrat.
Oui.
Je me souviens, mon ami qui me disait, mais non, mais l'ami avec tout, c'est, tu vas, je vais pas rester 4-5 ans de ma vie sans travailler.
Tu le vivais donc, mal, là, justement, c'était important pour toi de faire quelque chose, en fait. Tu n'as pas lâché, même si on t'a dit, tu ne peux pas travailler avec ton visa de femme d'expat, tu n'as pas lâché.
Ah oui, j'ai pas pu lâcher. Je me disais, ça peut pas. Surtout que je voyais bien qu'en début de carrière, si pendant 5 ans je ne faisais rien, ça allait. J'allais pouvoir vraiment difficilement rebondir sur. Surtout que je pouvais pas prétendre à ce moment-là de me dire ça y est, je me lance dans l'entrepreneuriat sans une véritable expérience professionnelle. Donc à ce moment-là, c'est vrai que. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'accompagnement des entreprises à l'export et de l'accès des marchés malaisiens. J'ai énormément appris. Bon, je travaillais beaucoup, même au-delà de ce qu'on me demandait faire, parce qu'il fallait que je sois légitime pour ce poste ou même cette mission que j'avais à ce moment-là. Jusqu'au jour, donc à l'issue du 6 mois, on m'avait proposé de sortir du pays et de revenir avec un visa de travail indépendant de celui de mon mari. Et là... Là, c'est vrai que le poste que j'avais à l'époque responsable du pôle agroalimentaire chez Ubi France, c'est un poste où j'ai pu faire vraiment de très belles réalisations. J'avais créé, par exemple, j'avais mis en place le premier pavillon France dans un salon international du halal, parce que la Malaisie avait l'ambition d'être le hub du marché du halal à travers son logo Jacqueline. Et donc, j'étais à l'initiative vraiment du premier pavillon France où j'ai accompagné les entreprises pour pouvoir avoir accès à ce marché malaisien et aussi régional, parce qu'il y a plusieurs pays musulmans dans la région. À travers ce travail, j'ai pu énormément voyager pour les réunions, pour faire mener à bien mes missions dans l'accompagnement des entreprises pour avoir accès à ces marchés, aux programmes de rendez-vous. Donc, ça m'a permis de vraiment apprendre énormément et surtout découvrir cette région et le potentiel de tout son marché, ses gens. Il faut savoir que la Malaisie, c'est vraiment un pays qui est... il a la majorité musulmane, mais il est vraiment multi-ethnique et pluriculturel.
Tu y as passé combien d'années, justement, Lamia ?
5 ans.
Ouais. Alors, oui. Quand tu racontes ça, vraiment, bon, on sent que ça peut être compliqué à un moment, que tu n'as pas lâché, mais c'est le début d'une relation, c'est le début d'un mariage. Est-ce qu'on se pose des questions à ce moment-là ? Est-ce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai abandonné ma carrière pour quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'on se remet en question pour tous les jeunes couples aujourd'hui qui sont dans cette même expérience ?
Alors, bien sûr, souvent on se dit, est-ce que je fais le bon choix ? Est-ce que on se pose souvent la question ? Mais ce qu'il faut se dire, moi j'essayais souvent de me prendre du recul et de me dire, le challenge c'est aussi d'être bien préparé pour reconnaître les opportunités et savoir les saisir. Là, en l'occurrence, effectivement, je me retrouvais dans des pays. Bon, là c'était la Malaisie, mais après. Après, on est parti en Égypte, après à Dubaï. Et puis, quand on était en Égypte, on est revenu plusieurs fois à Paris parce que ce n'était pas une situation... Mais à chaque fois, je me disais, si je suis là, ce n'est pas un hasard. Les rencontres que je fais, ce n'est pas un hasard. Il faut que je saisisse ces opportunités pour construire mon histoire. Et c'est comme ça que... Déjà, en Malaisie, quand je voyageais, et à chaque fois, je voulais ramener avec moi un petit souvenir. Donc, c'est une région où il y a une abondance de pierres fines, de couleurs, de variétés extraordinaires. Donc, je commençais un petit peu à m'intéresser à ces pierres. Et à chaque fois, j'en ramenais une ou deux avec moi pour en souvenir de la région que je visitais. Et là, c'est vrai que... Au bout de 3-4 ans, j'ai ma fille qui a aujourd'hui 13 ans. Je suis revenue à Tanger pour donner naissance à ma fille. Je suis revenue. Et là, au niveau légal, en Malaisie, on n'a droit que à 2 mois de congé maternité. J'en avais déjà pris un pour aller au Maroc. Et là, c'était vraiment le deuxième gros challenge, c'est d'être dans un pays aussi loin, sans la famille. Donc, il fallait que je compte sur l'aide des voisins, des nouveaux amis que j'ai rencontrés, du soutien de mes collègues pour pouvoir faire de temps en temps du télétravail, alors que ce n'était pas du tout
la politique. Ouais.
Oui, c'était pas du tout la tendance. Donc, tout ça, c'était vraiment en continu. Et parfois, je me disais, Je fais ce que je peux et puis qu'est-ce qui va se passer? Si je me fais virer parce que je ne peux pas faire les deux, parce que je ne vais pas laisser ma fille avec n'importe qui, avec... je me disais, eh bien, ça veut dire que je dois quitter, que je dois faire autre chose. Et puis là, en l'occurrence, bon, j'en avais profité pour aussi changer de secteur et aller vers la mode à Vita Santé, parce que c'était vraiment un secteur qui m'intéressait énormément et qui était aussi dans la créa, dans la mode, un secteur que j'avais envie aussi de découvrir dans cette région-là et de pouvoir être en contact avec les entreprises françaises et tout ça et les connaître mieux, savoir connaître mieux leur stratégie, parce que je me voyais plus un jour travailler dans ce domaine-là que dans l'agroalimentaire. Donc je continue à apprendre, je continue à essayer de me chercher, de voir qu'est-ce que je peux bien faire avec tout ça, jusqu'au jour où mon mari, bon, il a eu une superbe opportunité en Égypte, et donc on a dû s'installer à Alexandrie, juste après la révolution, donc une situation extrêmement difficile, instable, donc un mode de vie qui était complètement différent. On devait se déplacer avec des agents de sécurité. À chaque moindre bombe sonore, la multinationale ne voulait pas prendre les responsabilités et nous demandait de partir en famille. Donc il est arrivé qu'en plein, même ma fille était en grande section, on devait revenir à Paris, au pied levé, rentrer dans une école pendant 6 mois, revenir. Et donc, c'est vrai que c'était à chaque fois, il fallait jongler, ne pas avoir de visibilité, de dire, bon, ok, j'ai fait ça, maintenant, je fais quoi je continuais quand même à me dire, bon, il faut quand même que j'essaye de trouver un travail ou développer quelque chose qui peut aller avec ces déplacements.
Avec ma vie. Mais alors, justement, si je peux me permettre, aujourd'hui, donc, Lamia, tu es femme entrepreneur. Tu entreprends dans plusieurs domaines, enfin, ils sont tous peut-être liés à la création et à l'art. Notre génération n'a pas eu l'éducation de l'entrepreneuriat, et encore moins de l'entrepreneuriat féminin. C'est-à-dire, on suivait un parcours classique, études, université, travail, voilà, dans une structure en tant que salarié. Si c'était à refaire, est-ce que tu aurais voulu, à l'époque, avoir tous ces outils qui te permettent et te lancer en fait directement dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu aurais voulu avoir anticipé cette expérience?
Moi, je pense que l'expérience de l'entrepreneuriat, on arrive à l'acquérir avec vraiment l'expérience en entreprise. Oui. Parce que les outils, c'est une chose, mais ce qu'on vit et les interactions qu'on fait avec le monde réel du travail est très différent. Et pour, dans mon expérience, en tout cas, je pense que si c'était à refaire et que je n'avais pas été en contact avec ces entreprises vraiment au vif de leur travail, d'être allé en industrie, parce que, alors, le travail d'accompagnement d'entreprise, ça me permettait d'aller à la fois en industrie, de rentrer dans leur stratégie de commercialisation, de production et aussi stratégie commerciale. Donc pour moi, je ne pouvais, même si j'avais les outils, de loin, on ne peut pas les mettre de la même façon. Pour moi, je pense que l'expérience en entreprise est quand même importante avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, j'aurais été capable de m'adapter, de saisir, d'être aussi flexible dans mon travail si je n'avais pas fait toutes ces rencontres, si je n'avais pas pris de l'assurance en ayant avec l'expérience que j'ai eue.
C'est ça, oui. Donc, mais est-ce que tu aurais voulu, en fait, avoir en tête déjà le programme de l'entrepreneuriat?
Bien sûr, mais ça c'est d'ailleurs c'est, je me souviens même en poche, je me disais, si un jour je suis entrepreneur, qu'est-ce que je devrais apprendre, en quoi je dois concentrer mes efforts, quelles rencontres je devrais faire, quelle base de données, de contacts je dois avoir dans une visibilité, dans un futur proche, de pouvoir tout capitaliser et faire de l'entrepreneuriat de manière encore plus optimale. Donc Moi, pour moi, avoir les outils, oui, mais c'est des outils, on peut apprendre avec l'expérience du travail sans au niveau académique avoir eu tous les outils et les avoir prévus, tout ça. On peut quand même se lancer dans l'entrepreneuriat. Chacun a son histoire et ça peut quand même aboutir avec des beaux résultats. Et surtout que parfois, on sait pas ce qui... Enfin, en tout cas, dans mon cas, je n'avais aucune visibilité. Je me disais, tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas là par hasard dans cet endroit du monde.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'il y a de bien? Quelle personne... D'ailleurs, aujourd'hui, je suis vraiment très contente et comblée d'avoir fait des rencontres merveilleuses à travers le monde et que parfois, je peux contacter une amie qui s'est retrouvée maintenant à Miami ou en Inde ou en Malaisie ou en et ces gens-là à des moments donnés de mon projet professionnel continuent à m'apporter des choses. Parfois c'est ne serait-ce que celle justement de Miami, c'est un côté spirituel, elle m'a appris aussi à me connaître, à faire de la méditation, à réfléchir sur les priorités, sur ce que je veux, sur ce que je veux pour moi, pour ma famille. Chacun, j'ai l'impression que dans chaque rencontre que j'ai pu faire, j'ai pu saisir et profiter de certains éléments qui me servent énormément aujourd'hui.
Aujourd'hui, Lamia, toi, tu es créatrice de bijoux. C'est ça. Et tu as également lancé une fondation, c'est ça, d'art.
Dar Shamel.
Une fondation d'art, Dar Shamel. Mm-hmm. Voilà, exactement.
Voilà. Avec ART.
C'est ça. Alors, l'idée des bijoux, je pense qu'elle te vient de Malaisie, en fait, comme tu as expliqué tout à l'heure, ces voyages, ces découvertes de pierres, etc., et comment faire quelque chose de plus concret.
Oui.
Je pense.
Oui, tout à fait.
C'est ça. Mm-hmm. Et donc ça, tu le continues et tu as lancé la fondation.
Tout à fait.
Pourquoi ?
Tout à fait. Donc, la fondation, donc en arrivant à Tanger, je continue à développer ma marque Safar Joaillerie et aussi j'avais une envie de m'intéresser aux artisans, aux talents durs, parce qu'on a énormément de talents cachés dans notre région qui sont magnifiques, mais je trouve qu'ils peuvent mieux briller, qu'ils ont quand même besoin de cet accompagnement pour certains d'entre eux, pour mieux commercialiser leurs produits, pour être plus visibles. Et donc, d'un côté, j'avais très envie de m'intéresser à cette région que j'aime beaucoup et aussi de mettre à profit toute cette expertise et cette expérience que j'ai eue en France, enfin avec la partie française, de pouvoir le mettre à profit pour les gens de ma région. Et c'est pour ça que...
Mais ça t'apporte quoi à toi en tant que personne?
Je reste dans un milieu que j'aime beaucoup, qui est l'art, la création. Donc, ça m'apporte énormément d'inspiration. D'ailleurs, ces rencontres qu'on fait avec ces artisans, on a toujours des nouvelles idées, que ce soit de collaboration ou d'ouverture de certaines choses. C'est aussi un accomplissement personnel de pouvoir accompagner ces gens-là, me dire qu'on peut collaborer d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que avec mon amie, ma partenaire Maria Brabid, on a décidé d'organiser des événements pour pouvoir mettre en synergie des artistes bien établis avec ceux qui sont des artistes naissants et qui ont du talent, pour pouvoir les voir faire quelque chose, les accompagner, les porter, un jour pouvoir les voir briller. Et ça, c'est un compliment. C'est l'aspect humain qui me manquait par rapport à mon projet de création de ma marque, parce que effectivement on est dans la création, on voyage pour s'inspirer, pour pouvoir faire des nouvelles collections qui vont avec la tendance, etc. Mais il y a quand même cet aspect humain d'apporter quelque chose à notre pays, à notre entourage, et de pouvoir en faire partie pour voir aussi les choses évoluer et grandir.
Alors, si on te disait, Lamia, on ramasse nos affaires à nouveau et on repart.
Ah non. Ah non, je ne repartirai pas.
Non, pourquoi ?
Non, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de visiter des endroits merveilleux, mais à chaque fois. Alors, et c'est souvent des destinations très attendues que j'organisais. Je disais, OK, c'est super du point de vue culturel, c'est très dépaysant, c'est magnifique, c'est enrichissant, mais au coin, j'avais une pensée pour Tanger, parce que pour moi, Tanger reste quand même une ville extrêmement belle, un ciel bleu éclatant toute l'année quasiment. Ce soleil, cette verdure, cette mer, l'énergie des gens, leur flexibilité.
Mais pardon, beauté. Alors au-delà de ça, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, tu as un projet pour ta région, en fait ? Est-ce que c'est surtout ça ?
Maintenant, j'ai une grande attache pour ce projet de cette région. Et c'est aussi, c'est aussi le retour d'être à côté de mes proches, parce qu'il y a des choses qu'on peut reporter dans la vie. Mais profiter de ses proches, ses parents, sa famille, c'est les enfants en bas âge, de les voir en contact avec les grands-parents, de connaître et de d'assimiler cette identité tout en grandissant, ça n'a pas de prix. Je reviens. Non, là je
dis non.
Je continuerai à voyager.
Ouais.
J'espère que je vais rester.
Eh ben super. Bon, on espère que tu vas rester aussi. Lamia Al-Aqel, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci pour cette belle discussion et merci en fait d'être venue partager ce qui fait la trajectoire de la femme que tu es devenue aujourd'hui.
Merci beaucoup Yasmine. Vraiment, j'adore ce que tu fais. Je trouve que tu apportes énormément pour les femmes d'aujourd'hui, la possibilité de pouvoir s'exprimer des raisonnements et du vécu qu'on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir partager avec les femmes d'aujourd'hui. Et merci de le permettre.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média 1 et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.